Le livre des psaumes est certainement l'un des plus beaux livres de la Bible. Et pourtant, il s'y trouve des versets qui sont parmi les plus durs et les plus violents aussi de l'Écriture. Il y a ce verset insupportable du psaume 137 et qui dit « Fille de Babylone, heureux qui te rend pareil le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase contre le roc. » Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a le psaume 21 qui dit « L'Éternel les anéantira dans sa colère, le feu les dévorera, tu feras disparaître leur postérité de la terre et avec ton arc tu tireras sur eux. » Il y a le psaume 63 « Ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre, ils seront livrés au glaive et ils seront la proie des chacals. » Il faut bien dire que, en général, nous autres prédicateurs préférons prêcher sur l'amour, le pardon, la grâce, la douceur, que sur ces passages de violence. Et donc, effectivement, ces passages posent de graves problèmes, à un tel point que dans les livres liturgiques de l'Église romaine, ils ont simplement été supprimés pour éviter tous les problèmes. Et même dans le psautier écuménique, qui est pourtant une des meilleures traductions des psaumes que j'utilise, ces versets ont été mis entre crochets pour dire qu'on ne les assume pas tout à fait. La question, c'est donc la suivante. Que pouvons-nous faire de ces passages? Et y a-t-il autre chose à faire que de les supprimer tout simplement? Alors j'ai trouvé, en réfléchissant bien, différentes issues. Je vais vous donner toutes les issues possibles. Je crois que j'en ai trouvé 7. C'est un bon nombre. Et puis, vous verrez laquelle vous convient. Mais on a le droit de les mélanger parce qu'en fait, je crois que toutes ces solutions, d'une certaine manière, sont bonnes. Toutes sont bonnes, sauf peut-être la première. La première, c'est de le lire au pied de la lettre et de dire, eh bien oui, il est écrit que l'on souhaite que Dieu détruise les ennemis. Eh bien, c'est bien ce que nous souhaitons. Ça n'est pas très à la mode, mais c'est quand même comme ça qu'ont été lus ces psaumes pendant des années. Que l'on pense à ce qui se passait pendant les guerres de religion, où effectivement la notion d'ennemi avait un sens particulièrement fort, et je crois que les protestants, quand ils chantaient les psaumes pendant les guerres des religions, entendaient tout à fait le mot ennemi au sens propre. Et ce n'est pas simplement il y a 500 ans, mais une de mes vieilles paroissiennes qui a une propriété dans laquelle elle habite, cette propriété ayant été réquisitionnée par les Allemands pendant la guerre, me raconte qu'elle s'amusait à chanter à tue-tête dans les salons le psaume 68 que nous avons chanté tout à l'heure, « Que Dieu se montre seulement et l'on verra en un instant abandonner la place des ennemis épars. » Et dans son esprit, les ennemis, c'était les Allemands qui envahissaient son château. Et c'était tout. Simplement, il est évident que ce type de lecture au pied de la lettre pose quand même de graves problèmes par rapport à une conception, je dirais, plus évangélique du rapport à l'ennemi. En effet, dans l'Évangile, on nous dit « Pardonnez à vos ennemis, bénissez et ne maudissez pas ». On nous présente le Christ qui, justement, maltraité, humilié, n'a rien fait, et que c'est une espèce de gloire, précisément, que de ne pas réagir par rapport à cela, et que nous sommes invités à être comme Dieu qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Alors du coup, effectivement, c'est la deuxième solution. La première, c'est de les prendre telles quelles. La deuxième solution, c'est de dire ces passages sont en fait des vestiges d'une théologie archaïque. Il y avait effectivement dans l'Ancien Testament une théologie guerrière d'un Dieu à l'image des monarques orientaux capable de vie et de mort sur ses sujets. Et c'est donc une théologie ancienne, en quelque sorte, une vieille révélation ou une mécompréhension d'un peuple qui n'était pas arrivé à la pleine lumière de la connaissance de Dieu. Or, la pleine lumière de la connaissance de Dieu nous a offerte par le Christ, et le Christ nous présente Dieu comme un Dieu d'amour, comme un Dieu de douceur, de tendresse et de pardon. Par conséquent, s'il y a opposition entre des versets violents de l'Ancien Testament et des versets de douceur dans le Nouveau, je privilégierai les versets de douceur du Nouveau et au nom de cela, j'éliminerai les versets de l'Ancien Testament en disant « Cela est dépassé, c'est une conception des choses qui n'est plus possible aujourd'hui. L'Évangile, d'une certaine manière, nous interdit de dire de tels mots et d'entendre de tels passages. » L'Évangile annule, en quelque sorte, des passages de l'Ancien Testament qui lui sont incohérents ou alors les dépasse, c'est-à-dire que c'était une conception un peu primitive de Dieu. Dans ce sens, effectivement, le mieux que l'on ait à faire quand on lit ces psaumes, c'est de sauter ces passages, de sauter ces versets, de les retirer, oui, voire de les mettre, comme dans certaines traductions, entre crochets pour dire « nous ne les assumons pas, ils y sont, on les laisse, mais ils ne sont plus possibles de les lire. » Troisième solution, c'est de les entendre quand même, mais de les édulcorer, en quelque sorte. Et de dire, ces passages nous montrent quelque chose d'essentiel, c'est que Dieu ne se fait pas complice du mal. Parce qu'en effet, il s'agit bien là de savoir ce que Dieu fait à nos ennemis, c'est-à-dire à ceux qui nous font du mal. Or, nous sommes dans ce monde en proie à de l'injustice, à de la violence, à de la haine, à de la méchanceté gratuite. Et il y a effectivement dans ce monde, je dirais, des êtres qui volontairement ou involontairement nous font du mal, et nous font un mal terrible. Alors la question c'est bien beau de dire, oui, il faut pardonner, il faut aimer, et puis Dieu aime tout le monde et Dieu pardonne tout le monde. Mais moi, je reste avec ma haine, avec ma difficulté à pardonner, avec mes blessures, et qu'est-ce que l'on fait de tout ça? Eh bien ces versets peut-être justement nous disent que Dieu ne se fait pas complice du mal, mais qu'il accepte, je dirais, de rentrer dans la bataille, et qu'il accepte de venir défendre le plus faible. Donc oui, il s'engage dans le combat du monde, et il vient là pour défendre celui qui souffre, et il le défend concrètement. Parce que sinon, notre prédication ne serait qu'une sorte de chose édulcorée et planante. Et si Dieu ne me sert à rien quand moi je suis blessé concrètement, si Dieu n'est qu'une sorte d'idéologie de pardon inatteignable, qu'est Dieu dans ma vie? Il faut à un moment donné que Dieu, effectivement, soit compris comme celui qui vient agir dans ma vie, qui vient m'aider, qui vient me sauver, qui vient me défendre contre le méchant. Alors cela, évidemment, faut peut-être pas entendre tout au pied de la lettre. Et heureux qui écrasera la tête de tes enfants contre le rocher, je ne vais peut-être pas aller jusque-là. Mais la Bible souvent dit les choses d'une manière exagérée, d'une manière hyperbolique. Donc c'est un peu beaucoup, mais néanmoins ça nous explique quelque chose qui est de l'ordre de l'action de Dieu qui s'engage pour défendre le plus faible. Et d'ailleurs, si on regarde bien, ces passages violents ne sont jamais présentés comme une vengeance, mais toujours comme le fait de défendre le plus faible. Ça n'est même pas présenté comme une justice, comme si Dieu devait rétablir la justice en disant « punis le méchant ». Non, c'est plutôt « détruis le méchant pour qu'il cesse de me faire du mal ». Et donc il s'agit effectivement d'une façon d'aider celui qui souffre à reprendre confiance. Et en général, le psaume dit plutôt à propos des méchants, il dit ne t'indigne pas à la vue de ceux qui font le mal et qui réussissent. C'est le psaume 37. Ne t'indigne pas à la vue de ceux qui font le mal et qui réussissent. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis, de toute façon, ça ne les mènera pas loin. C'est ce que dit le psaume. Par contre, il peut défendre effectivement le plus méchant, la défense de l'opprimé. Et donc Dieu ne nous donne pas simplement de bonnes paroles en nous demandant de supporter comme ça patiemment la vie, il nous aide à nous défendre. Et ça c'est par exemple le psaume 40. Le Seigneur me délivre, daigne Seigneur venir me délivrer, « Seigneur, viens vite à mon secours. Qu'ils reculent couverts de honte ceux qui cherchent mon malheur. Que l'humiliation les écrase ceux qui disent « C'est bien fait ». Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, tu es mon libérateur. Ô mon Dieu, ne tarde pas. » Eh bien oui, c'est sans doute une hyperbole, c'est sans doute exagéré, mais dans le fond, c'est essentiel. Reste à savoir de quelle manière Dieu nous défend et nous aide. Ça, c'est autre chose, peut-être d'une manière imagée, certainement. Enfin, voilà. Quatrième solution pour essayer de se tirer d'affaire avec ces versets violents, c'est de penser que les pécheurs dont il est question dans ces psaumes sont en fait l'incarnation et l'image du péché et du mal. Et donc, c'est une solution qui est élégante, c'est probablement une de celles qui me satisfait le plus, qui nous rappelle que Dieu, s'il aime le pécheur, a de la haine pour le péché. Et donc, de faire la distinction entre le péché et le pécheur. Et donc, de voir dans ces pécheurs, ou ces personnages pécheurs des psaumes, non pas des personnages humains, je dirais, des individus qui sont néanmoins des enfants de Dieu aimés et sauvés par Dieu, mais de voir des incarnations en quelque sorte du péché et donc de les déshumaniser. Alors de ce côté-là, je n'ai plus aucun problème pour lire ces versets, parce que je peux dire que je souhaite effectivement que Dieu détruise l'égoïsme, que Dieu explose la violence, que Dieu anéantisse la jalousie et que Dieu, je dirais, fasse noyer dans son propre sang la haine et le racisme. Voilà. Eh bien, ça, je peux le dire. Et je ne pense pas que ce ne soit pas chrétien que de souhaiter que le mal en soi soit détruit, soit annihilé, soit, je dirais, cassé pour toujours et qu'il n'en reste rien. Bien sûr, je n'ai rien contre, je dirais, humainement, je ne vais pas souhaiter qu'on condamne à mort tous ceux qui participent à ce mal, mais que Dieu détruise le mal. Et du coup, on peut très bien, effectivement, je dirais, relire tous ces psaumes en les dépersonnalisant. Et c'est même d'ailleurs souvent ce que je fais quand je dois les lire dans des assemblées non averties, ou plutôt que quand je lis par exemple dans le psaume « Dieu détruit tous ceux qui font le mal », je vais lire « Dieu détruit tous ceux, c'est eux qui font le mal ». C'est-à-dire de les dépersonnaliser et de voir l'idée, si vous voulez, dedans, plutôt que la personne elle-même. Et ça, je peux vous donner un exemple, voilà le psaume 35. « Accuse, Seigneur, ceux qui m'accusent ». Je vais dire « Accuse, Seigneur, tous ceux qui m'accusent ». « Attaque ceux qui m'attaquent. Prends une armure, un bouclier, lève-toi pour me défendre. » Aucun problème. « Brandis la lance et l'épée contre ceux qui me poursuivent. » Non, brandis la lance et l'épée contre ceux qui me poursuivent. « Parle et dis-moi, je suis ton salut. » « Que soient humiliés et déshonorés tous ceux qui s'en prennent à ma vie et que reculent couverts de honte tous ceux qui veulent mon malheur. » Vous voyez que dès qu'on dépersonnalise, il n'y a plus aucun problème à lire ces versets qui deviennent tout à fait positifs, je dirais. Parce que oui, il y a de la haine, il y a de la violence, il y a de la jalousie, et je veux que tout cela disparaisse à jamais et qu'il n'en reste rien. Bon, autre solution encore. C'est la cinquième, je crois, si j'ai bien calculé. La cinquième, c'est pour moi, de lire ses ennemis, non pas comme des ennemis humains, extérieurs, matériels, mais comme des ennemis intérieurs. Et là, j'ai pensé à cela à cause d'un verset du Christ lui-même qui dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, et qui après ne peuvent rien faire d'autre, mais craignez plutôt ceux qui peuvent tuer l'âme. » Or, qui peut tuer l'âme ? Ce sont des ennemis intérieurs. Ce sont des ennemis qui ne sont pas humains, ce sont des épreuves, des difficultés, je dirais, personnelles. Et peut-être que ces ennemis que l'on demande à Dieu de détruire eh bien, c'est le découragement, c'est la tentation, c'est le mal finalement qui se trouve en nous et tout ce qui, dans notre existence, voudrait nous abattre justement et nous faire chuter, nous faire tomber. Et ces ennemis intérieurs, ces ennemis spirituels sont nombreux dans notre existence. Et là, oui, je prie Dieu que Dieu détruise à jamais tous ces ennemis intérieurs, toutes ces tentations, toutes ces craintes, toutes ces épreuves intérieures, toutes ces ennemis spirituels, que Dieu les détruise à jamais et qu'il m'aide totalement à m'en libérer. Et du coup, je pense que ça devient très facile de le lire. Il suffit de remplacer, par exemple, le mot « adversaire » dans les psaumes par le mot « adversité ». Dieu me libère, si ce n'est de l'adversaire, en tout cas de l'adversité. Et je crois que ça, c'est une solution très, très biblique. Parce que, en fait, la Bible a passé son temps à faire ça avec ses propres récits. Regardez, par exemple, le centre de l'histoire sainte, c'est la libération d'Égypte. Et Jésus lui-même présente Dieu dans sa confession de foi en disant « Écoute, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai libéré du pays d'Égypte. » Bon, alors moi je ne sais pas, je ne vais jamais aller en Égypte, mais si vous y allez, vous n'imaginez pas que le sens même de Dieu, c'est qu'il vous libère des Égyptiens. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens égyptiens qui sont des gens très bien et qui ne pensent pas du tout que le sens de l'Écriture ait quelque chose à dire contre les Égyptiens en tant que citoyens, en quelque sorte. Mais non, mais c'est parce que l'Égypte est justement considérée comme une image de la servitude. Et du coup, toute l'histoire sainte, qui est pourtant une histoire concrète, est relue comme une histoire spirituelle. Et Dieu est là pour nous libérer, si ce n'est politiquement de l'Égypte, au moins intérieurement, de toute servitude, de toute aliénation de notre existence. Et tout le chemin que nous sommes appelés à faire dans le désert, ensuite, pour aller vers la terre promise, le but, ça n'est pas d'entrer physiquement à Jérusalem, ce n'est pas de se promener avec des sandales dans le désert du Néguev, le but, ce n'est pas de traverser à la nage le Jourdain comme un fleuve matériel et géographique, mais c'est de faire ce chemin intellectuel, ce chemin spirituel, qui justement nous fait sortir de la servitude pour nous faire accéder à travers toute cette pérégrination dans un désert d'une quête spirituelle à l'écoute de Dieu et pour arriver enfin à accéder à la terre promise qui est symboliquement et spirituellement le lieu de la plénitude de la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus porte, il s'appelle Jésus dans nos Bibles, mais porte le nom d'un autre personnage de l'Ancien Testament, qui est Josué. Jésus s'appelle Josué, c'est tout. On l'appelle Jésus pour le distinguer de l'autre, mais son nom, c'est bien Josué. Josué qui est le successeur de David, qui justement fera traverser le Jourdain pour accéder à la terre promise, mais il s'agit là d'un autre type de terre promise. Alors c'est pourquoi l'ennemi dont parle le psaume n'est pas, je dirais, le voisin qui nous embête en mettant sa télévision trop fort. L'ennemi dont parle le psaume, ce n'est pas un ennemi matériel, mais c'est peut-être ce qui, chez mon prochain, m'ennuie et que j'aimerais voir disparaître. C'est peut-être ce qui, en moi, m'embête et que je voudrais voir disparaître. Jésus a de la haine pour le péché. Pourtant, il va aller déjeuner chez le pécheur, il va déjeuner chez le pharisien, déjeuner chez le péager dans l'Évangile. Et il va entrer en dialogue avec lui, même s'il n'a pas de sympathie avec lui. Et donc il s'agit, voyez-vous, d'un autre type d'ennemi. Et dans ce sens, la violence de ces versets, à mon avis, devient tout à fait supportable. Bon, encore une autre lecture possible. Quand on nous dit que Dieu sauve le juste et qu'il va détruire l'injuste, là, j'ai un petit problème. Parce que je me suis dit, bon, on va essayer de jouer le jeu jusqu'au bout et de me dire, qui Dieu sauve-t-il et qui Dieu punit-il? Alors d'abord, qui est sauvé? Qui est le juste? Là, c'est difficile, parce que le psaume 1 dit, « Et le juste, il médite ta parole jour et nuit ». Le problème, c'est que je ne trouve personne qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Et donc, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le psaume 1 dit « Le juste, tout ce qu'il fait réussit. Je n'ai vu personne qui réussisse tout ce qu'il fait. Je n'ai vu personne qui médite la parole de Dieu jour et nuit, et donc le juste n'existe pas. » Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et de même, le méchant, le pécheur, qui est balayé comme le vent, est-ce qu'il existe vraiment un méchant ? Est-ce qu'il existe quelqu'un qui soit totalement mauvais, qui soit que mauvais, 100% mauvais ? Est-ce qu'il existe effectivement un pécheur absolu, quelqu'un qui ne pourrait être défini que par le mal et que par le péché ? Réponse, non. Et par conséquent, je dois bien admettre que les deux coexistent en nous. Et il y a en moi le juste et il y a en moi le pécheur. Et par conséquent, tout le monde est à la fois un petit peu le juste et un petit peu le pécheur. Et nous sommes tous, finalement, les deux à la fois. Alors du coup, ce que je demande à Dieu dans le psaume, c'est de détruire l'injuste. Une fois de plus, non pas la personne injuste, mais toute l'injustice qu'il peut y avoir dans une personne. Et peut-être même en moi. D'ailleurs, il est remarquable que la plupart des imprécations contre les méchants dans les psaumes concernent leurs enfants. Ça nous rend ces passages particulièrement odieux, évidemment, parce qu'on n'aime pas qu'on touche aux enfants. Mais en même temps, je comprends cela très fort, parce qu'en moi, il y a du mal. Alors je demande à Dieu, oui, si c'est possible de détruire ce mal, qu'il s'anéantisse en lui-même, qu'il disparaisse. Et puis même, je demande que la descendance de ce mal soit détruite à jamais. La descendance, ce sont les conséquences, c'est tout ce qui suit, tout ce qui advient du mal que l'on fait. Et là, du coup, il y a deux demandes. L'une, c'est que Dieu puisse venir détruire le mal qui est en moi, détruire l'injuste qui est en moi, détruire le pécheur qui est en moi, et que ça, Dieu le détruise, qu'il l'explose contre des rochers, parce que je n'en veux pas, et qu'il laisse subsister le meilleur. Et aussi, qu'il détruise la descendance de ce mal qui est en moi. Parce que, quand on fait du mal, eh bien, oui, évidemment, Dieu peut me libérer du mal, mais le mal que j'ai fait, il prend une sorte d'autonomie dans ce monde. Et le mal que j'ai fait, il a des conséquences. Et quand moi je fais le mal, ce n'est pas simplement le fait que je sois pécheur qui est problématique, c'est que le mal que j'ai fait, il continue de courir dans le monde. Et ça, c'est très embêtant. Et donc, oui, je supplie Dieu de faire en sorte que les conséquences du mal qui est en moi puissent s'anéantir, puissent disparaître et puissent s'arrêter. Oui, je prie Dieu pour que les enfants de mon égoïsme puissent mourir la tête explosée contre les rochers, que la descendance de ma haine et de ma jalousie puisse n'avoir aucune postérité, qu'il n'en reste rien et que les choses s'arrêtent là. Je pense que ça, c'est effectivement une demande fondamentale. On nous dit effectivement que il faut que ces enfants aient, j'allais dire, la tête éclatée contre le rocher. Et le mot du rocher est un mot biblique assez connu pour désigner Dieu lui-même. C'est Dieu qui est mon rocher. Et donc, il ne s'agit pas là d'une sorte de vengeance assoiffée de sang, mais d'une sorte de belle prière, de dire « Seigneur, s'il était possible que toutes les conséquences du mal que j'ai pu faire puissent se trouver détruites en se heurtant au rocher de grâce et de salut, de pardon, de douceur, de miséricorde que tu représentes, de façon à ce que les conséquences en elles-mêmes disparaissent. » Alors ça, c'est... Ça nous montre effectivement qu'il y a une certaine conception dynamique là-dedans. Dieu veut éliminer le méchant qui est en nous, éliminer la méchanceté, ce qui pour moi est une bonne nouvelle, pas une mauvaise, parce que là encore, il n'y a pas de punition, simplement Dieu détruit le mal. C'est une bonne nouvelle. Comme la paille brûle au feu, le paysan qui fait la moisson, eh bien, il ramasse le grain, il brûle la paille, il n'a aucune acrimonie contre la paille. La paille, elle est comme ça, on la brûle, c'est tout. Et donc, ces versets de destruction du méchant, eh bien, pour moi, peuvent être une bonne nouvelle si je les comprends justement de cette manière-là. Et puis enfin, la dernière explication, qui est la, finalement peut-être la plus compliquée ou qui me permet de revenir au départ. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'acceptais toutes ces explications comme bonnes, sauf la première qui consistait à le prendre au pied de la lettre. Eh bien, finalement, je vais essayer l'impossible et de vous défendre la possibilité d'une lecture au pied de la lettre de ces versets. Et tout simplement pour la raison suivante, c'est que ces versets expriment, je dirais, la violence des sentiments qui peuvent être dans l'homme. Et effectivement, vous savez, les psaumes, ce ne sont pas des prédications à l'eau de rose. Les psaumes, ce sont des prières. Et dans les prières, on ne fait pas de catéchisme. On ne fait pas de sermon dans les prières. Quand on prie Dieu, on est face à Dieu. Et on dit à Dieu tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce que l'on ressent. Et on crie à Dieu sa joie, mais aussi sa haine. On crie à Dieu aussi son désir de vengeance. On crie à Dieu aussi son désespoir. On dit à Dieu sa foi, mais aussi ses doutes. La prière, c'est le moment où on déballe tout à Dieu et on dit tout à Dieu. Et justement, si ces psaumes, peut-être, ont eu tant de succès dans l'humanité, et s'ils sont si beaux et s'ils nous touchent de si près, c'est que les psaumes ne sont pas des leçons de morale ni de catéchisme, mais qu'ils sont l'expression de notre vie à nous. Et c'est pourquoi dans les psaumes, on trouve de la foi, mais on trouve aussi du doute, on trouve de l'espérance, mais on trouve aussi du désespoir. Il y a des psaumes épouvantables qui se terminent dans une sorte de doute total et absolu, d'absence de Dieu et d'un cri de désespoir. Pourquoi ? Eh bien parce que dans notre vie, il y a parfois des cris de désespoir. Et donc justement, ces psaumes sont beaux parce que c'est l'expression de ce que nous vivons. Et qui peut dire, quel être humain peut dire qu'il n'a jamais désiré dans son cœur, je dirais même la mort d'un ennemi, ou même qu'il arrive du mal à quelqu'un qui lui a fait du mal? Qui dans son cœur peut dire qu'il n'a jamais ressenti le moindre désir de vengeance? Eh bien oui, ces sentiments sont là. Et donc dans les psaumes, on les dit, c'est tout. Maintenant, Dieu en fera ce qu'il en veut, mais on les dit. Et je pense que le psaume est donc, évidemment, comme ça, comme une prière dans laquelle on expose à Dieu ses propres sentiments de façon à ce que Dieu les transforme. Il ne faudrait pas croire que la prière soit une sorte de chose qui agisse d'un point de vue magique sur Dieu. Ce n'est pas parce que je dis à Dieu « Ah, j'aimerais qu'un tel disparaisse » que tout à coup, pouf, il disparaît, ce serait épouvantable. Mais je dis à Dieu, moi, ce que moi, pauvre humain limité, je ressens, et le fait de l'exprimer à Dieu, ça permet à Dieu de transformer ce sentiment négatif dans un sentiment positif. C'est pourquoi il faut lire plusieurs psaumes. Il ne faut pas faire un florilège, comme je l'ai fait, des passages difficiles, parce que ça, c'est fausser la chose. Il faudrait, après chaque passage difficile, continuer avec encore 2-3 autres psaumes qui vont au contraire nous remettre dans le sens de dire que Dieu justement pardonne, que Dieu nous aide, qu'il nous soutient, qu'il conforte, qu'il convertit, qu'il peut changer même le méchant et qu'il peut tout amener à la vie. C'est-à-dire qu'il faudrait tout reprendre dans ce sens-là. Dans la prière, on dit tout ce que l'on pense à Dieu. Et Dieu transforme nos sentiments. Dieu les prend et les transforme. Rien ne serait plus mauvais qu'une foi dans laquelle on interdirait aux fidèles d'avoir aucune mauvaise pensée, de n'être jamais égoïste, de n'avoir jamais de haine, ni de désir de vengeance. Au contraire, Dieu nous accepte tels que nous sommes, et les psaumes, ce n'est pas la prière de Dieu, c'est la prière des hommes. Et là, nous avons le droit de dire ce que nous pensons. Cela dit, comme je vous dis tout à l'heure, il s'agit toujours là de l'action de Dieu. Et que quand et jamais dans le psaume, le psalmiste dit « Eh bien, moi, je vais me venger ». Il ne dit jamais « Je vais faire ceci » ou « Je vais faire cela contre mon ennemi ». Il attend que Dieu le fasse. Et il y a là quelque chose d'assez beau, je crois, qui est de dire « Je laisse faire, je fais confiance à Dieu pour régler le problème. Je m'en remets à la justice divine ». Et effectivement, probablement que le mal qui arrive aux pécheurs peut-être des simples conséquences. Qui sème le vent récolte la tempête. On sait que ce type d'attitude de méchanceté peut déchaîner, entraîner de la violence, et qu'effectivement le méchant génère de la violence. Maintenant, l'Ancien Testament a tendance à attribuer à Dieu tout ce qui arrive et même les conséquences de nos actes. Et donc oui, le méchant génère de la violence, je le sais, et c'est vrai. Et par ailleurs, j'exprime à Dieu tous mes sentiments. Alors voyez-vous que ces versets sont aujourd'hui difficiles, effectivement, à la première écoute. Et en même temps, à la fois, je crois qu'il ne faut pas les enlever, d'une certaine manière. Parce qu'ils disent énormément de belles choses. La solution la plus simple, c'est de les dépersonnaliser, évidemment, et de voir le mal derrière le pécheur, etc., comme je vous l'ai dit. Mais néanmoins, ils disent d'extrêmement belles choses. Maintenant, je reconnais que si on doit lire ces psaumes dans un auditoire non averti et qu'on n'a pas le temps de passer une demi-heure à expliquer cette manière de comprendre ces versets embêtants, je reconnais qu'il vaut peut-être mieux les enlever, parce qu'ils risquent des incompréhensions. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour nous chrétiens, il faut justement accepter de se frotter à ces rochers, je dirais, contondants de la parole, parce que quand on se frotte à ces rochers contondants de la parole, eh bien tout le mal qui est en nous peut avoir une chance de disparaître et de partir en lambeaux. Et grâce à cela, eh bien peut-être que nous découvrons ce Dieu qui nous aide, ce Dieu qui nous sauve et qui nous défend, ce Dieu qui effectivement est un Dieu de tendresse, mais en même temps un Dieu qui s'engage dans nos vies pour un combat spirituel du bien sur le mal, mais aussi, c'est vrai, de la paix sur la violence et de l'amour sur la haine. Amen.